Bienvenue sur Alimente ton sport, un podcast qui se veut un lieu d'échange et de partage sur la nutrition sportive. Je suis Audrey Bélanger-Leclerc, nutritionniste du sport, diplômée du Comité international olympique. J'ai comme mission d'aider les sportifs à développer leur plein potentiel dans leur sport en améliorant leurs connaissances et en développant leur autonomie en nutrition. Avec Alimente ton sport, je souhaite donc te partager mes connaissances et mon expérience en nutrition sportive. Je souhaite aussi échanger avec mes invités sur différents sujets qui touchent de près ou de loin la nutrition, parce que selon moi, on peut alimenter notre sport avec, oui, bien sûr, la nutrition, l'alimentation, mais aussi avec d'autres aspects non négligeables. Merci d'être là, merci de me permettre de réaliser cette mission-là et bonne écoute! Avant de me lancer dans le vif du sujet du jour, j'ai envie de prendre quelques minutes pour te parler de ma formation complètement gratuite, 4 étapes pour réussir tes objectifs de course en sentier. Dans cette formation de 4 jours, je te présente sous forme de courtes capsules mes meilleurs trucs de nutrition pour t'aider à optimiser ton énergie, optimiser ta récupération et tes performances. Si t'es là sur le podcast, c'est que tu sais comme moi que la nutrition, c'est tout autant important que ton entraînement pour l'atteinte de tes objectifs de course. Et si la nutrition, c'est ton maillon faible ou encore si tu souhaites l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Bonjour et bienvenue dans l'épisode de la semaine du podcast Alimente ton sport. Aujourd'hui, j'ai avec moi une habituée du podcast, la première personne avec qui j'ai fait une entrevue. Je suis super contente de l'avoir avec moi de retour aujourd'hui. En fait, je suis en compagnie d'une coureuse, mais d'une physiothérapeute également, et c'est vraiment plus le volet physiothérapie que je veux aborder aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle de prévention des blessures chez le coureur et de la pertinence de l'évaluation d'un patron de course. Donc, je suis avec Mélodie Gilbert. Allô Mélodie, re-bienvenue sur Alimente ton sport.
Allô, merci de m'inviter encore une fois aujourd'hui. Comme on se disait, là, ça fait déjà plus qu'un an qu'on s'était parlé, fait que je suis contente d'être de retour.
Oui, puis tu sais, on va parler de trucs peut-être de tes courses parce que bon, tu viens de vivre des expériences assez incroyables. Mais aujourd'hui, je veux pas juste parler à l'athlète, je veux parler aussi à la professionnelle parce que je pense qu'on n'avait pas été dans ce volet-là dans le premier épisode qu'on a fait ensemble. Là, fait que je pense que ça va être vraiment intéressant aujourd'hui de parler de ce volet-là aussi avec toi.
Ben oui, tout à fait. Puis je pense que c'est le moment idéal pour en parler aussi là, à ce moment-ci de l'année. Fait que c'est parfait.
Merveilleux. Puis justement, avant qu'on entre dans le vif du sujet, bien premièrement, félicitations parce que tu es de retour de l'Europe. Tu viens d'aller faire 2 belles courses. Tu reviens aussi surtout avec 2 belles médailles. Veux-tu nous parler un peu de ce que tu viens de vivre?
Oui, c'était vraiment incroyable. J'ai fait un voyage de 3 semaines en Europe. J'ai commencé en France, dans le sud de la France. J'ai fait une course qui était Trail de la Cité de Pierre. Donc, c'était un 31 km, comme le nom le dit, Cité de Pierre. Donc, très rocailleux, up and down. C'était super le fun. J'ai réussi à aller chercher la victoire sur cette course-là, mais au-delà de la victoire, c'est vraiment une expérience incroyable. J'ai été accueillie par toute la communauté là-bas aussi. Donc, vraiment une belle expérience. Je recommande vraiment le coin, là. C'est à Millau, donc dans le sud de la France, plus bas que Montpellier. C'est un endroit incroyable aussi pour voyager. Puis après, j'ai poursuivi mon voyage. Moi, je ne voulais pas reprendre d'avion entre la France et la Croatie parce que mon objectif final était en Croatie. Donc, j'ai voyagé en bus, je me suis arrêtée en Italie, j'ai passé quelques jours en Italie pour courir. Puis après ça, je me suis rendue en Croatie pour ma deuxième course qui était Istria par UTMB. Donc, je faisais le 69 km qui était qualificatif pour pouvoir aller à l'OCC qui est le 50 kg de l'UTMB. Donc, il fallait un podium pour avoir la qualification, puis j'ai réussi à aller chercher la deuxième position. Donc, encore une fois, c'était une super course, super expérience. Ça a été des gros challenges, mais tout s'est bien passé au final. Puis, c'est un beau voyage que j'ai appris aussi à voyager seule, puis à m'organiser avec les transports en commun, puis tout ça. Donc, ouais,
ah,
c'était vraiment bien.
Très cool. Puis, j'imagine que ton objectif, justement, c'était ça, de te classer pour l'OCC.
Oui, c'était mon objectif qui était un peu ambitieux, donc je voulais pas trop comme me le mettre en tête, puis mais c'était, ça restait l'objectif, donc je suis tellement contente que ça soit fait, puis c'est comme si ça me donne un petit lousse de pouvoir mettre ça de côté. C'est fait jusqu'en 2025, ma qualification est faite,
Ouais.
donc c'est un stress de moins. Et j'y vais aussi en 2024, j'avais déjà ma qualification. On se qualifie un an d'avance maintenant. Donc, c'est un petit stress qui est déjà parti en début d'année. C'est super cool.
Très cool. C'est sûr que tu sais, c'est toujours le fun, je trouve, de voir des Québécois à l'international sur des parcours. Tu sais, c'est difficile quand même de s'entraîner probablement pour ce type d'événement-là parce que on va se le dire, c'est pas le même terrain là. Fait que je trouve
Ah
ça
non, oui.
tellement le fun de te voir dans le fond, de courir sur ces sentiers-là. Puis, tu sais, je me souviens là, ton 31 km, la première course que tu as fait, je t'ai suivi. Puis, je sais pas c'est qui publiait des stories, mais en tout cas, bref, un peu tout le monde, je pense, qui te suivait sur la course. Fait que j'étais capable comme de voir un peu. Puis, ça a quand même été très serré. Il y a comme une belle
Ouais.
bataille là, entre toi et la deuxième position. Fait que c'était vraiment, vraiment le fun.
Ouais. Puis je veux pas trop comme prendre de temps de parler de mes courses, mais
Oui.
si je peux faire un petit commentaire là, parce que les gens ils s'inquiètent toujours, pratiquer entre elles, pratiquer les dénivelés, pratiquer une technique. J'avais pas mis les pieds dans une trail depuis l'automne là. Moi, l'hiver, j'aime pas trop ça, aller caler dans la neige, donc je fais beaucoup de chemin de terre. J'avais fait presque rien de dénivelé de tout l'hiver, mais j'avais tellement travaillé avec des intervalles de vitesse, j'étais plus forte en montée que je dépassais tout le monde en montée. Donc, ça, on n'est pas obligé de faire du spécifique, vraiment beaucoup de dénivelé ou vraiment beaucoup de techniques de trail pour à performer non plus. Fait, si je
Ouais.
pouvais juste dire ce petit commentaire-là, t'sais, quand on est bien entraîné, ça se peut se passer bien, même si on n'a pas pratiqué dans le même genre de terrain.
C'est vraiment intéressant ce que tu dis, hein, parce que ben, tu sais, ça revient à dire c'est important d'être accompagné si on ne sait pas trop comment gérer tout ça, là, mais c'est vraiment intéressant.
Ouais.
Oui. J'ai comme pas pris le temps de te présenter parce que je l'ai dit d'entrée de jeu, t'es comme une habitude du podcast, c'est la première fois que je te reçois. Pour ceux qui te connaissent pas, en fait, ce que je vais dire, c'est j'invite ces gens-là à faire pause maintenant et peut-être à l'écouter, si je me trompe pas, c'était l'épisode 28 du podcast. On avait pris le temps de bien te présenter, de parler de ton background de course, un peu professionnel aussi. Puis, on avait parlé de plein de belles expériences que tu avais vécues là, dans cet épisode-là. Fait que si jamais vous ne
Ouais.
connaissez pas Mélodie, vous pouvez faire pause et aller écouter peut-être cet épisode-là, en premier.
Oui.
Sinon, aujourd'hui, on l'a dit un peu dans l'intro, mais je voulais qu'on aborde deux sujets, ben, deux sujets très conjoints, là, mais tu sais, la prévention des blessures chez les coureurs et l'évaluation du patron de course dans tout ça. Tu l'as dit avant même qu'on enregistre, tu trouves que c'est un bon moment. Puis honnêtement, j'avais pas pensé à ça, là, mais tu trouves que c'est un bon moment pour parler de ça présentement parce qu'on est en changement de saison. Veux-tu m'expliquer un peu pourquoi tu trouves que justement c'est une belle période de l'année pour aborder la prévention des blessures?
Ben, en fait, là, c'est un bon moment de l'année en ce moment pour l'aborder parce que au printemps, quand il commence à faire beau puis qu'on commence à avoir envie de retourner dehors, c'est là que tout le monde se blesse. C'est là qu'il y a beaucoup, beaucoup de blessures, malheureusement, parce qu'on est excité de reprendre, on est excité d'aller dehors. Les gens qui courent moins l'hiver, ils décident de retourner, puis là, il fait beau, puis là, ils en font beaucoup. Il y a les changements de surface, on passe de courir sur la neige qui est molle ou de courir à l'intérieur sur tapis roulant à là courir dehors sur l'asphalte un peu parce qu'on ne peut pas aller dans les trails tout de suite. Il y a beaucoup de changements qui arrivent au printemps. Puis le changement, c'est le facteur numéro un là, des blessures. Quand il y a un changement quelconque dans nos habitudes d'entraînement, quand ils sont trop élevés, ben, c'est là que les blessures occurrent. Puis pourquoi pour l'évaluation du patron de course, c'est le bon moment aussi? C'est parce qu'on est en début de saison, on n'est pas en pleine saison, plein d'entraînement. On a des petits changements à apporter, des ajustements à apporter, du renforcement spécifique à faire. Ben là, en évaluant en ce moment-ci nos petites lacunes, ben c'est le moment parfait pour les travailler, pour être prêt pour l'été, pour la saison. Des fois, quand on est en pleine saison, c'est comme un peu tannant de venir changer certains paramètres. Fait qu'en ce moment, c'est le moment idéal.
Parfait, super intéressant. Pour revenir à ce que tu disais, bon, les blessures, généralement, ça va être lié à un changement. Fait que si je comprends bien, ça peut être autant, ben, j'imagine un changement au niveau un peu de la progression. Fait que, tu sais, les gens qui ont peut-être moins couru pendant l'hiver, puis que là, ah, tout d'un coup, il fait super beau, mon Dieu, je me semble que je file pour aller courir des heures dehors, alors que mon volume d'entraînement dans les derniers mois ne représentait pas ça du tout. Et tu as parlé de changement de surface de course, donc autant dehors, tu sais, de la neige à l'asphalte, ou bien, tu sais, autant tapis roulant à l'asphalte aussi. J'imagine qu'il peut avoir le changement de chaussures aussi, hein, parce que des fois, on a des souliers différents l'hiver versus l'été. Est-ce qu'il y a des recommandations par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des conseils comme plus généraux de base que tu dis aux coureurs au printemps spécifique là, pour peut-être diminuer le risque de blessure, justement?
Oui, parce que les blessures, c'est d'en faire trop, trop vite. Puis, si j'ai un conseil à donner, c'est pense pas à ce qu'est-ce que tu faisais à l'automne ou à l'été dernier ou à comment tu étais, mettons, avant l'hiver. Pense en ce moment, dans les dernières semaines, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu étais en mesure, comment tu t'es entraîné. Puis, pars de ça en y ajoutant un petit peu. Dis-toi pas, ah, l'automne dernier, j'étais capable de faire des longues sorties de 2 heures, je m'en vais faire un 2 heures. Non, dans les dernières semaines, la plus longue que tu as fait, c'était des 45 minutes. Ben, essaye-toi sur un 50-55 minutes, pas sur un 2 heures one shot. Fait que fie-toi à qu'est-ce que tu as fait dans les dernières semaines. On augmente tranquillement, là, t'sais, niveau d'entraînement. On augmente 10% par semaine, t'sais, on y va vraiment progressivement. Donc, ça, c'est pour l'augmentation. Puis, dans les trainings aussi, quand on parle d'augmenter progressivement, il y a oui la longueur des sorties, donc le volume, mais le volume total aussi dans ta semaine. Fait que tu peux pas penser de faire des semaines à 25 kilos, à 50 kilos, par exemple. Puis ensuite, il y a les intensités. Est-ce que tu as déjà intégré des intervalles ou tu n'as pas fait d'intervalle l'hiver? Si tu n'en as pas fait de l'hiver, on ne va pas en faire 2 fois dans ta semaine. On va en faire un puis qui est un peu plus modéré qu'à l'habitude, avant d'augmenter tranquillement aussi les intensités. Fait qu'il y a le volume, il y a les intensités, puis il y a le dénivelé aussi. Fait que même chose, si on n'a pas fait de dénivelé de l'hiver, on va pas se taper du up and down vraiment en fou là, la première fois qu'on veut en faire. Là. Fait que c'est, puis on n'augmente pas les trois paramètres en même temps. On essaye de focusser sur un, puis quand un va bien, on ajoute les autres aussi. Parce que si on ajoute tout en même temps, c'est là que c'est un surplus de charge sur le corps puis qu'il y a des blessures qui peuvent sortir.
Puis comment on fait pour s'adapter au changement de surface? Un peu le même principe, on y va progressivement, j'imagine.
Ouais, pour le changement de surface, si je dis les gens qui étaient habitués à courir plus sur tapis roulant ou sur surface stable, puis que là, ils tombent en trail ou en surface moins stable. Là, le risque, c'est les stabilisateurs des chevilles ou les genoux. C'est là qu'il va y avoir des petites douleurs qui peuvent sortir. Fait que de faire des exercices de renforcement, de stabilisation peut aider. Puis, justement, de ne pas passer de courir, exemple, toutes nos sorties sur tapis roulant à toutes nos sorties dehors. Fait qu'on y va progressivement, j'en fais une ou deux dehors, encore une ou deux sur tapis roulant, et on change progressivement la surface. Pour ceux que c'est le contraire, qui ont couru dans la neige, puis que là, ils tombent sur une surface plus raide, là, ça va être d'aller chercher, je suis capable d'aller sur un chemin de terre, un petit sentier gravier avant d'être sur l'asphalte. Là, je dis pas d'aller en trail parce que c'est le moment du dégel, fait qu'on veut laisser les trails tranquilles. Mais c'est de trouver des surfaces un peu moins raides que de l'asphalte, puis de vérifier aussi d'avoir les bonnes chaussures. Quand on est sur la neige ou en trail l'été, des souliers de trail, c'est parfait. Mais moi, quand je vois des trailers avec des souliers de trail sur de l'asphalte, c'est pas l'idéal, là. Ça tape plus fort, puis ça vient mettre beaucoup plus d'impact, puis c'est moins bon pour le pied. Donc, d'avoir un soulier de route, ça fait pas de mal aussi quand on a besoin de faire de la route.
Ouais, puis tu sais, on parle de souliers, mais c'est un sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Justement, tu sais, je pense, là, on parle de changement de souliers dans un contexte de changement de saison ou changement de surface. Mais quelqu'un qui a besoin de s'acheter des nouveaux souliers parce que ses souliers sont finis. Comment on fait pour s'adapter à nos nouveaux souliers et à faire la transition justement pour éviter de se blesser? Parce que j'imagine que ça peut être un risque de blessure si on fait juste changer complètement notre paire de souliers du jour au lendemain, que c'est peut-être une chaussure qui est différente un peu de ce qu'on était habitué de prendre. Bref, c'est quoi tes conseils par rapport à ça?
OK, là, je suis contente qu'on en parle parce que je vais donner des conseils, puis les gens, ils n'aimeront pas ça parce que ça va être des conseils généraux, mais c'est le meilleur conseil que je peux pas donner. Il n'y a aucune marque spécifique qui. Quelqu'un qui demande ah, quelle marque tu me conseilles, c'est pas la marque de souliers, c'est le soulier, comment il est fait. Toutes les marques de souliers ont différents types de souliers. Fait que c'est pas parce que là, tu es bien dans un Hoka que tu peux être bien dans n'importe quel Hoka. C'est pas parce que tu es bien dans un ASIC que tu vas être bien dans n'importe quel ASIC. Fait que la marque ne veut pas dire que ah, oh, moi, je suis habituée d'avoir toujours des ASIC, je vais continuer la. Ben, ça n'a pas rapport. Chaque modèle de soulier est différent. Donc, puis chaque marque ou chaque modèle ne va pas faire à tout le monde. Fait qu'on peut pas demander conseil à quelqu'un. Quelle marque prendre, quel soulier prendre, il faut vraiment trouver pour nous c'est quoi qui fonctionne. Fait que ça, c'est la première chose. Puis donc, on essaie de ne pas se fier à oh, le coureur préféré que je suis, qu'est-ce qu'il porte comme soulier, ça doit être les meilleurs, c'est eux que je vais prendre. Non, il faut trouver le soulier pour soi-même. Ensuite, comment choisir un nouveau soulier? On va dans un magasin spécialisé de souliers, un magasin de sport qui est spécialisé en souliers de course. Magasiner sur Internet sans les avoir mis dans ses pieds ou commander, aller chez Sport Expert avec un petit vendeur qui connaît pas la course à pied, c'est pas l'idéal. Fait qu'on essaie d'aller dans un magasin spécialisé en course, puis on apporte notre vieille paire de souliers. Si ta vieille paire de souliers, elle allait bien, puis que tu étais confortable, puis qu'il n'y avait aucun problème, pas de douleur, pas de blessure, garde la même ou très semblable. Et comme j'ai dit tantôt, on évite les changements le plus possible. Fait que si t'es bien dans une paire et qu'elle te convient, garde ça. Ou apporte-le au vendeur, dis, j'avais ça, qu'est-ce que t'as qui est très semblable à ça en termes de spécificité du soulier. C'est pas obligé d'être la même marque, mais il peut avoir les mêmes spécificités. Ce que je veux dire par là, c'est le poids du soulier, la largeur du soulier, si tu as besoin d'un soulier qui est plus large ou plus étroit, le drop, etc. Fait que tu vas aller chercher des spécificités du soulier qui sont les mêmes parce que ton soulier allait bien. Si tu es blessé puis qu'il y a une douleur associée, là, demande conseil peut-être à ton physio ou à quelqu'un parce que selon la blessure, tu peux avoir besoin de spécificités différentes de ton soulier. Puis là, on peut aller l'ajuster comme ça. Fait que là, il faut demander conseil selon ta douleur. Ça va être différent si tu as une douleur au pied versus si tu as une douleur au genou. La douleur au genou, on va vouloir aller un peu plus mince, un peu plus minimaliste versus douleur au pied qu'on va peut-être un peu plus coussiner, etc. Si tu n'as pas de douleur, tu avais un soulier qui était comme correct, mais pas plus que ça, tu ne l'aimais pas tant que ça. Ben là, tu peux encore une fois apporter ton vieux soulier au magasin, puis dire que tu veux pas nécessairement pareil, mais qu'il faut pas que ce soit un trop gros changement. Donc, si toi, tu avais un soulier qui était très coussiné, très épais, très, très stable, ben on va pas aller dans un soulier très minimaliste. Fait qu'on peut faire un petit changement, mais on va juste dire, oh, je veux pas que ça change trop d'une shot pour pas faire un choc à mon corps. Fait que, encore une fois, c'est de limiter les trop grands changements.
Parfait. Ça revient un peu à ce qu'on dit souvent, hein, c'est d'aller demander des conseils à des gens
Qui connaissent.
qui connaissent ça, qui sont spécialisés là-dedans. Tu sais, tu as nommé justement des boutiques de sport spécialisées en course à pied. Tu sais, pour partager quelque chose d'un peu personnel, bon, vous savez, j'habite en Abitibi.
Ouais, il y en a pas ben.
C'est un peu complexe. Fait que, tu sais, souvent, nous, en Abitibi, il faut profiter des moments où on va à l'extérieur pour aller magasiner nos souliers parce que sinon, j'ai déjà fait, là, honnêtement, dans le passé, commander des souliers. Puis... C'est ça. C'était pas adapté du tout. Puis, je me suis pas blessée, heureusement, mais j'ai réalisé rapidement que ça fonctionnait pas, là. Fait que, ça vaut la peine d'aller voir puis d'avoir quelque chose qui est adapté, là.
Ouais, bref, vraiment.
On a parlé, tu sais, on parle comme de blessures là, depuis le début, mais c'est quoi les blessures les plus fréquentes que tu vois dans ta pratique chez les coureurs?
Je te dirais qu'il y en a quand même beaucoup des différentes. Là, l'hiver, qu'est-ce qui arrivait? C'était beaucoup là, des douleurs là, le long des chevilles, là, les stabilisateurs. Fait, parce qu'on allait courir dans la neige, on allait. Fait que là, les stabilisateurs de chevilles, ça travaillait fort. Des fois aussi, ça allait chercher dans les hanches, là, derrière de la cuisse, les ischio-jambiers, les adducteurs. C'est tous des stabilisateurs que quand on se retrouvait à courir un peu instable, tu sais, quand tu es dans la neige puis ça dérape, puis là, tu travailles beaucoup là, des jambes, c'est les blessures que je voyais beaucoup cet hiver. Là, avec l'arrivée du printemps, le changement de surface, le changement, on augmente vite nos entraînements. Ça, c'est beaucoup de blessures que je vois aux genoux qui arrivent souvent. Syndrome fémoro-patellaire, ce genre de blessures-là, des fois de la bandelette ilio-tibiale aussi. C'est ce qui arrive souvent. Ça peut arriver aussi des tendinites, fait que tendinite de l'ischio, tendinite du fessier qui va survenir parce que c'est des genres de blessures de surcharge, des blessures qu'il y a eu un peu trop qui a été faite à ce niveau-là. Fait qu'au lieu d'être des blessures traumatiques ou ça va être vraiment des blessures là, il y a eu trop de charges d'appliquer. Ouais.
OK. Ça serait quoi tes conseils? Tu sais, j'ai l'impression que les gens vont peut-être consulter tard un peu dans le sens qu'ils vont
Ouais.
avoir un inconfort à la course, puis on se dit, bah, ben, tu sais, c'est un petit inconfort, on continue de courir sur cet inconfort-là. Mais tu sais, admettons-le, moi, je cours, je sens un inconfort. C'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi tes recommandations?
Ouais, ça c'est bien parce que si tu sais comment agir, tu peux tellement éviter une blessure, puis
Ouais.
tu vas t'en sortir avec quelques jours d'inconfort seulement, puis ça va repartir. Fait que nouvel inconfort qui est inhabituel puis qui n'est pas un raquage. Là. Tu sais, ça arrive d'avoir une douleur musculaire, là, qu'on dit un raquage. Ben, c'est de reconnaître ça puis de se dire, OK, ça, c'est pas dangereux. Mais si c'est une nouvelle douleur qui est comme aiguë puis que c'est quand tu te remets à courir ou faire un mouvement spécifique, là, tu sens que c'est pas normal. Tu n'as jamais eu ce genre de douleur-là. Prends un jour de break, pas 2 semaines. Le pire que tu peux faire, c'est t'arrêter complètement pendant 2 semaines et essayer de recommencer. Pourquoi? Parce que ton corps, il va pas s'adapter. Tu vas lui donner 2 semaines de break, tu vas retourner courir, ça va être comme si c'était le lendemain, ta douleur va revenir tout de suite. Fait qu'il faut pas s'arrêter complètement. On donne un jour ou deux de repos, on essaye de se masser, s'étirer, relâcher, tu sais, tout ce qui pourrait tirer aux alentours. Puis là, on retente des petites courses un peu plus léger, moins longue, juste pour voir comment que ça se passe. Si ça se passe bien, on augmente progressivement, encore une fois, vraiment en prudence. On ne retourne pas à notre entraînement là, comme si de rien n'était. On augmente en prudence, puis ça se peut que ça passe comme ça. Fait que juste d'avoir fait des étirements un peu, d'avoir laissé 1 ou 2 jours de break, puis de reprendre tranquillement, ça va passer. Si après ce test-là, 3, 4 jours, ça passe pas, puis la douleur reste intense, on va consulter. Moi, j'attendrai pas là, d'aller consulter en physio tout de suite ou physio, masso ou l'ostéo, tu sais, le professionnel que tu as l'habitude de voir. Après 4, 5 jours, il va t'évaluer, voir tout de suite qu'est-ce que tu as, te donner les exercices spécifiques parce que ça se peut que toi, tu ne sais pas c'est quel étirement qu'il faut faire ou quel exercice. Puis, peut-être que tu auras besoin juste de 1 ou 2 rendez-vous, puis ça va être réglé. Mais si tu laisses la douleur augmenter, tu cours sur ta douleur, tu l'augmentes encore, puis là, tu attends 3 semaines, 1 mois, eh bien là, ça va peut-être te prendre 1 mois à t'en débarrasser aussi après de ta douleur. Fait qu'agir rapidement, ça vaut tellement la peine, là, puis ça règle les choses tellement plus rapidement, là.
Je trouve ça le fun parce que ce que tu viens de dire, c'est clair, là. T'as dit, on se laisse 1 ou 2 journées. Si ça continue, ben on niaise pas, on va consulter. Puis je pense que les gens aiment ça quand c'est clair comme ça. Puis tu sais, je pense à une blessure. J'imagine que dans la majorité des cas, il y a une progression là, vers une blessure dans le sens que c'est pas. Ben, il peut y avoir, j'imagine, des contextes de blessure où c'est comme
Ouais. Ben, une blessure
instantané, là.
traumatique comme tu te vires
Oui.
la cheville, tu te fais un
Ouais.
entorse de cheville, ça c'est automatique. Mais le surcharge, tu as des petits signaux
Ouais,
là,
c'est
que tu peux
ça.
écouter
Ouais.
d'avance, là. Ouais.
Fait que c'est super important d'être à l'écoute de notre corps aussi en tant que coureur.
Oui, mais tu
Ouais.
sais, c'est normal aussi d'avoir des inconforts. Faut pas s'inquiéter parce que des fois, les nouveaux coureurs, il y en a aussi qui sont dans le spectre un peu plus. anxieux que dès qu'il y a une petite douleur, il m'appelle. Puis là, je dis non, tu sais, là, t'es raqué un peu de ton
Ah
entraînement,
ouais.
c'est pas une blessure, tu peux l'endurer, ça va repartir dans 2 jours au plein. Il me dit ça, c'est vrai, c'est déjà reparti. Mais il faut savoir qu'en tant que coureur, quand on s'entraîne, il va en avoir des inconforts. Puis là, il faut savoir faire la différence entre un inconfort qui est normal versus une douleur là, qui s'en va vers une blessure. Mais ça,
Ouais.
c'est à force d'en faire puis de se connaître, là.
Ah, tout à fait. Tu as
Ouais.
parlé d'étirement, de se masser, mais en dehors même d'un contexte d'inconfort, c'est quoi le rôle justement, peut-être des étirements en prévention des blessures, j'ai envie de dire, dans un plan d'entraînement? Ou tu sais, même, je vois beaucoup de monde utiliser les foam rollers. Sais-tu, c'est quelque chose qui est efficace? On a-tu comme des données scientifiques là, en lien avec ça?
Ouais, je suis contente que tu en parles aussi parce que toutes ces petites techniques-là, gun à massage, foam roller, de la glace, du chaud, du tense, tout, ça n'a pas des grandes valeurs scientifiques. Du fait que il n'y a aucune technique qui est prouvée que ça va fonctionner à 100% pour tout le monde. Fait qu'est-ce que je dis? Mais c'est pas des techniques qui sont néfastes. Donc, ça peut pas te causer de quelque chose de mal. Donc, c'est de trouver toi qu'est-ce qui fonctionne pour toi puis qu'est-ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu trouves qui te fait du bien? Moi, par exemple, là, des étirements, là, en plus de détester ça me libère jamais de mes inconforts ou de mes raideurs. Par contre, j'adore ça, faire de l'automassage, du rouleau ou avec des balles, parce que moi, c'est ça qui fonctionne pour moi. J'ai des amis très proches de moi qui se font masser, puis ça ne leur fait rien, ça ne leur fait pas du bien, mais dès qu'ils s'étirent, c'est correct. Fait que c'est faire des tests, voir qu'est-ce que toi, tu fais sentir bien, puis de garder les habitudes que toi, ils te font du bien. Mais ce n'est pas obligatoire ou nécessaire. Je ne vais jamais dire à tout le monde, tu dois t'étirer avant, tu dois t'étirer après. Tu dois faire du foam roller. Non, c'est pas prouvé scientifiquement. Les choses qui sont prouvées scientifiquement et que tout le monde néglige, c'est la base de la pyramide. Puis ça, je l'explique souvent comme ça dans notre base de pyramide. C'est sommeil, alimentation, gestion d'entraînement.
Ah, tellement.
Fait
Je
que
suis 100% d'accord avec ça.
tout le monde me demande, ah, comment tu fais pour bien récupérer après tes entraînements, après tes courses?
Ouais.
Alimentation, sommeil et gestion d'entraînement. Donc, si tu es fatigué, si tu ressens des petites douleurs, si tu sens que tu en as beaucoup sur ton corps, ben première chose, là, toi, tu es bien placé pour en parler, mais
Oui.
ton alimentation dans ton quotidien, mais autour de ton entraînement, pendant ton entraînement, est-ce qu'il est optimal? Ensuite, est-ce que tu as un bon sommeil optimal qui permet de récupérer? C'est vraiment la base. Moi, après mes courses, qu'est-ce que je fais? Je dors. Je dors, puis je mange.
Ouais.
Donc, c'est ça qui me fait le plus récupérer. C'est ça qui est le mieux. Puis après ça, gestion d'entraînement, que là, c'est bien d'aller chercher un coach parfois. Moi, en ce moment, mon coach, il m'a donné beaucoup de repos cette semaine. Si j'étais par moi-même, je ne m'aurais peut-être pas donné autant, mais il faut le faire, puis c'est important. Ben, est-ce que je me donne assez de repos? Est-ce que quand je suis fatiguée, j'adapte mes entraînements? Est-ce que mes entraînements, ils progressent bien? C'est les 3 piliers qui sont le plus important. T'aurais beau là, faire des étirements, des exercices, du rouleau, des massages à tout. Si tu dors pas puis tu manges pas bien, ça va pas être efficace.
Ah ouais, c'est vraiment important ce que tu viens de dire, définitivement. Ouais. Puis
Ouais.
on peut pas, je pense qu'on peut pas parler de prévention des blessures sans parler de technique de course. Là, on entend comme tellement plein de choses par rapport à la technique de course en soi.
Ouais.
Tu sais, j'ai déjà entendu que si on force une technique de course un peu plus théorique, là, j'ai envie de dire que ça va mettre comme une pression supplémentaire sur notre corps, puis que c'est pas mieux, que là, on peut se mettre plus à risque de blessure. J'ai envie de t'entendre un peu par rapport à ça.
Ouais. Qu'est-ce que je dis depuis le début? Les changements, le
Ouais.
corps aime pas ça. Si tu n'as pas de blessure, tu n'as pas de problème, tout se passe bien, on ne va pas exagérer un changement de patron de course pour le plaisir. Dans le sens qu'on va pas. Quelqu'un qui court un peu du talon, puis qu'il n'y a aucun problème, puis il n'y a pas de douleur, puis il n'y a rien, mais je ne vais pas le forcer à aller courir du bout du pied. Ça va apporter un gros changement sur son corps, puis ça pourrait créer des blessures. Fait qu'on ne veut pas faire de changement drastique de patron de course pour aucune raison. Parce que ça va être un changement sur le corps, puis le corps, il n'aimerait pas ça. Donc, ça, c'est la première chose. Il n'y a pas une technique de course idéale qu'on veut que tout le monde ait. Chacun a un peu sa technique, mais on veut améliorer des petits aspects qui peuvent mener à des blessures. Ou, moi, quand je fais une évaluation du patron de course, je le dis toujours à mes coureurs, là, les conseils que je vais te donner, il y a deux options. Soit c'est pour t'aider à réduire le risque de blessure, ou soit c'est pour aider à l'économie de course. Ça veut dire d'être plus efficace. Pas nécessairement plus performant, c'est pas juste pour les personnes qui veulent performer, c'est pour courir de façon efficace en dépensant moins d'énergie, donc courir plus facilement. On va effectuer des petits changements graduels, justement, pour pas trop choquer le corps. Puis, ce qui est bien de se faire évaluer individuellement, c'est que chaque personne a ses petits défauts à lui. Quelqu'un, ça va être le haut du corps qui va gaspiller beaucoup d'énergie. Quelqu'un d'autre, il va avoir une jambe qui a un petit défaut. Ben, ça indique aussi que ben, tu as peut-être une faiblesse à un muscle de ton fessier droit ou à un muscle de ton quad de ta jambe. Et si, surtout quand il y a une jambe qui est différente de l'autre, que là, on va se réfléchir. Pourquoi qu'elle est différente? C'est quoi la faiblesse qui peut être associée à ça? Puis après ça, des fois, moi, je la travaille avec justement des exercices de renforcement. Fait que tu n'as pas nécessairement besoin de penser à ton patron de course pendant que tu cours pour changer ton patron de course. Ça peut être des changements faits à l'extérieur, justement, en renforcement, en aidant, en diminuant des tensions qu'on peut avoir. Fait que quand il y a une évaluation du patron de course, ben des fois, il y a une évaluation aussi des faiblesses musculaires qui peuvent être. Ou des tensions musculaires aux alentours aussi.
OK. Tu sais, on parle d'évaluation de patron de course. Moi, je sais comment ça se déroule parce que je l'ai fait. Peux-tu
Oui,
nous
on l'a fait
expliquer? Oui,
ensemble, oui.
c'est ça. Peux-tu nous expliquer c'est quoi exactement, comment ça se passe, c'est quoi les grandes étapes de cette évaluation-là?
Oui, ben, je vais l'expliquer, mais après ça, j'aimerais ça avoir, toi, ton feedback de comment ça a pu t'aider ou comment tu as trouvé ça, de ton bord. Donc, une évaluation du patron de course, comment ça fonctionne? C'est qu'on vient en clinique de physio. Premièrement, ben, si je ne te connais pas déjà en tant que coureur ou en tant que patient, je vais faire un petit questionnaire là, pour mieux savoir tes habitudes de course, tes entraînements, qu'est-ce que tu as fait dans les dernières semaines, as-tu des blessures, des antécédents de blessures, des douleurs présentement? Fait que vraiment, là, plus un petit questionnaire. Ensuite, c'est tout simple, on embarque sur le tapis roulant. Tu cours comme si j'étais pas là, fait que j'évalue comment je prends des vidéos dans tous les angles pour voir comment que juste le patron de course, justement. On regarde ta cadence de course, fait que ça, c'est le nombre de pas par minute. J'évalue certains critères. Puis ensuite, on s'assoit ensemble, on regarde les vidéos, puis on passe de la tête aux pieds et on regarde vraiment là, au ralenti sur les vidéos comment que tu cours. J'effectue ça sur tapis roulant parce que c'est plus facile de prendre des vidéos, puis c'est plus facile de voir le patron de course, puis ça se repose quand même sur notre course en trail. Après, quand c'est un coureur de trail, je vais donner des recommandations plus spécifiques. Si je vois qu'il y a une tendance, exemple, à avoir le dos reculé, ben je sais que ça va être accentué en descente en trail parce que c'est des choses que je sais que ça se transpose en trail. Fait que je vais quand même donner des recommandations qui sont plus liées au trail. Pour quelqu'un qui a vraiment une certaine problématique ou une certaine difficulté, ah, moi, j'ai toujours de la douleur juste en descente ou juste en montée. C'est quelque chose qui serait possible aussi de pouvoir aller faire une évaluation là, en trail avec moi. Là, je le fais moins régulièrement, mais s'il y a une demande spécifique, c'est quelque chose qui serait possible aussi. Ça va être juste là, il n'y aura pas nécessairement de vidéo de fait. Là, on va y aller plus à la vue de l'œil. Donc, des fois, c'est moins précis, mais je peux voir et donner des conseils terrain. Ouais.
Tu sais, si je peux parler de mon expérience justement pour faire du pont sur ce que tu dis. Moi, de mon côté, quand j'ai décidé de faire évaluer mon patron de course, ça faisait comme longtemps que je voulais le faire. Je l'avais jamais fait. Puis ce que je trouvais le fun, c'est que, ben, un, on se voit pas courir, là, on va se le dire. Moi, je me vois pas quand je cours. Puis je me disais, tu sais, j'ai pas d'antécédent de blessure, tu sais, d'inconfort non plus, mais je me disais, tu sais, pourquoi pas le faire en amont, là? Pourquoi pas aller voir s'il n'y a pas quelque chose à corriger, justement, qui pourrait éventuellement, tu sais, m'amener vers une blessure. Puis je me suis dit, tu me l'avais dit quand on s'est vu, ah, tu sais, je trouve ça le fun parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont venir consulter, qui vont venir faire évaluer leur patron de course avec, justement, déjà des inconforts ou des blessures. Moi, de mon côté, c'était vraiment, bon, je veux savoir s'il y a des choses à aller travailler. Puis on a
avait travaillé principalement mon économie de cours, j'ai envie de dire, là, c'était vraiment des trucs un peu plus spécifiques. C'est vraiment le fun de savoir. Le gros défi, en fait, je pense que c'est d'essayer de reproduire un peu vraiment ce qu'on fait, tu sais, de pas penser qu'on est regardé pendant qu'on court sur le tapis, là. Mais vraiment, tu sais, je me souviens, les vidéos, tu les mets vraiment au ralenti, fait qu'on voit chaque petit détail de la course, tu donnes vraiment des explications super pertinentes. Fait que moi, j'avais vraiment aimé ça. Puis les trucs que tu m'as donnés, ben, je les ai mis en pratique depuis, là. Fait que très cool.
Très cool. Puis si tu as réussi à les mettre en pratique, c'est bien aussi. J'essaie vraiment de donner des trucs qui sont simples, puis qui sont faciles à appliquer, puis pas trop de se casser la tête, là.
Des trucs simples, je peux donner un exemple de ce que tu m'avais donné parce que moi j'ai comme un problème de haut de corps très, très tête. Je ne sais pas si tu te souviens un peu, là. Très tête et les coudes un peu décollés aussi, là. Bref, tu m'avais dit, pense à pointer tes pouces vers l'avant quand tu cours. Fait que tu sais, c'est tellement simple comme truc. Puis des fois, je cours, puis là, je vais penser à toi, puis je suis comme, ah, c'est vrai, tu sais. Là, clairement, je suis mal positionnée, puis là, j'y repense, puis ça va, tu sais. Fait que c'était des trucs super simples comme ça que tu m'avais dit, qui avaient été super faciles à mettre en place, là.
Ah, ben c'est super. C'est exactement ça. Puis c'est pas d'y penser à 100% du temps. C'est pas grave si une fois de temps en temps tu te retrouves un peu comme ça, mais le fait que tu y penses, à chaque fois que tu te réajustes, ben ça devient un automatisme au fil du temps.
Exact, c'est vrai de ça. Puis, tu sais, on l'a dit un peu, là, mais si justement on n'a pas de douleur, on n'a pas d'inconfort, est-ce que c'est pertinent d'aller faire évaluer notre patelin de course? Qu'est-ce qu'on peut ressortir de ce genre
Ben,
d'évaluation-là?
comme toi t'as fait, je trouve que l'économie de course, c'est vraiment le fun parce que si tu deviens plus économique, plus efficace, justement, tu dépenses moins d'énergie pour le même nombre de temps de course, ça va devenir plus le fun, puis plus facile, puis plus aisé de courir. Tu vas être capable maintenant d'aller faire des sorties en zone 2, tu sais, les sorties fondamentales. Puis que tu vas jaser, puis tu vas dire, hey, c'est facile de courir parce que ton corps est bien habitué à faire cet effort-là sans que ça soit trop difficile. Fait que pour vrai, de juste ajuster des mini petites choses qui font en sorte que tu gaspilles moins d'énergie, c'est vraiment le fun. Tu sais, c'est le fun comme
Ben oui.
feeling que ça, tes mêmes courses deviennent plus faciles.
Ah,
Puis,
définitivement.
des fois, c'est pas grand-chose, puis tu t'en rends pas compte, mais justement, d'être un peu toujours crispé du haut du corps. Ben là, tu te rends compte que c'était peut-être ça finalement qui te donnait des tensions dans le cou, que tu laissais juste traîner, mais tu pensais pas que c'était un problème. Puis que là, tu réussis à disparaître des problèmes que tu savais pas trop que tu avais. C'est vraiment intéressant, là. Puis comme tu dis, on se voit pas courir, donc c'est
Non.
intéressant aussi de voir si, sans le savoir, il y avait une petite faiblesse ou quelque chose à travailler qui va juste faire en sorte que ça peut devenir aussi une prévention de blessure aussi, là.
Mais
D'aller
clairement.
travailler ses faiblesses-là. Donc, oui, je le recommande, même s'il n'y a pas de douleur ou de blessure, surtout à ce temps-ci de l'année, parce que comme je disais, au printemps, c'est l'idéal pour aller travailler nos petites faiblesses, nos défauts, si on veut, avant d'être dans la saison, là. C'est le moment idéal pour bâtir une base solide. Moi, je dis toujours, là, au printemps, il faut bâtir quelque chose de solide si on veut mettre des briques tout le long de l'été puis avoir une belle saison, plutôt que de partir sur du mou, des petites douleurs, c'est là qu'il faut régler nos petits problèmes en ce moment.
Ah, clairement. Oui. On a parlé vraiment plusieurs aspects en lien avec la prévention des blessures, l'évaluation du patron de course. Y a-t-il des points qu'on n'a pas abordés que tu penses que ce serait vraiment pertinent de les aborder?
Ben, attends un peu, là, je réfléchis, tu me
Oui,
prends
on essaie de repenser à ce
sur le
qu'on a.
moment. Les changements, on a parlé des souliers, on a parlé. Préparation, fait entraînement peut-être. Justement là, comment qu'on s'entraîne, comment qu'on se remet à courir le printemps. Là, je me rends compte que je suis inscrite au QMT qui est en juillet, puis que ça va arriver plus vite qu'on pense. Puis là, ce que je vois souvent, c'est des gens qui réalisent qu'ils ont une course qui est dans comme un mois, puis que là, ils font beaucoup, 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 beaucoup d'entraînement parce qu'ils se disent, merde, je suis en retard, je me suis pas assez entraînée, je vais aller faire 4 week-ends chocs de suite, puis ben, c'est le pire. Si vous avez des événements, commencez d'avance à vous entraîner. Puis si vous êtes en retard, là, puis qu'il vous reste juste un mois avant votre entraînement, avant votre événement, faites-en pas trop. Vous êtes mieux d'arriver un petit peu sous-entraîné qu'arriver blessé.
Ouais.
Donc, c'est de se réveiller en retard puis de vouloir trop en faire, c'est une grosse erreur. Fait que là, en ce moment, il n'y a pas de course qui est proche, proche, là. Donc, là, regardez vos courses que vous êtes inscrits, regardez les dates, puis regardez combien il vous reste de temps, puis commencez tout de suite à faire une préparation, à bâtir une base solide, puis à augmenter tranquillement. Puis si vous n'avez aucune idée, prenez-vous un coach. Prenez-vous un, si c'est pas un coach parce que ça fonctionne pas pour vous, ben, de suivre un programme des fois en ligne. Il y en a des bons, les événements, ils offrent souvent un programme sur 11 semaines, sur 12 semaines pour vous rendre à cette course-là. Puis, adaptez-le à vous, là. Si le programme, il offre 5 sorties par semaine, mais vous, c'est 3, ben, faites-en 3, tu sais. Et il faut vraiment essayer d'avoir une petite structure quand même. C'est pas obligé d'être très rigide. C'est pas tout le monde qui aime ça, suivre quelque chose de rigide. Ça peut être très ouvert, mais d'avoir quand même une petite structure puis
Ouais.
d'avoir une préparation adéquate va tellement vous éviter de douleurs et de blessures possibles. Ouais.
Oui, puis ça revient à ce qu'on dit souvent dans la pratique du sport, tu sais, l'objectif, c'est d'avoir du fun aussi à faire ce
Ouais.
qu'on fait. Puis tu sais, si un mois avant l'événement, on s'entraîne un peu n'importe comment, que le volume d'entraînement fait pas de sens, qu'on se blesse, qu'on a des inconforts, mais il est où le plaisir, tu sais?
Ben, c'est
Il est pas là.
ça. Puis, tu sais, moi, ben là, c'est pas pour faire une blog, mais je suis coach aussi avec Poutrelle.
Oui.
Puis, les gens, ils me disent, ah, oh, mais moi, je suis pas une coureuse d'élite, là, j'ai pas d'affaire d'avoir un coach. Puis là, ça, c'est quand même quelque chose que je veux démystifier, là. Tout le monde peut avoir un coach, peu importe le niveau, peu importe si c'est débutante ou pas. Je trouve que c'est bénéfique. Puis, même moi, je coach beaucoup, beaucoup de débutants aussi. Puis, c'est pas raide. Le coach, il va s'adapter à tes besoins. Puis si toi, tu as envie de partir avec tes amis, ben, tu ne seras pas limité là, à cause que oh, j'ai ça que mon coach m'a dit de faire. Là. Tu sais, c'est très ouvert, puis on s'adapte à la personne. Puis c'est juste qu'on est là pour justement donner une structure, puis donner une belle progression à la personne pour pas qu'elle se laisse, puis que ça soit bien fait. Donc, avoir un coach, je veux pas dire que c'est très raide, très structuré, très, très. C'est carré,
Très rigide, oui.
c'est pas très rigide, on est là pour vraiment suivre la personne puis suivre ses envies aussi, là.
Oui, clairement. Puis tu sais, c'est quelque chose que je vois beaucoup en nutrition aussi. Là, tu parlais plus au niveau coaching. Les gens qui vont dire, ah, mais tu sais, je suis débutant et je fais pas des gros événements, peu importe, ça vaut pas la peine, mais oui. Ça vaut tout à
Ah
fait la
oui.
peine. Tu l'as nommé tantôt dans les trois trucs fondamentaux. Tu sais, la gestion de l'entraînement, ça en fait partie, l'alimentation. Fait que oui, ça vaut la peine, définitivement.
Ouais.
Je trouve que c'est une très belle conclusion de notre épisode.
Ben oui, puis même encore plus avec les débutants, quand tu n'as aucune
Oui.
idée
Ouais.
d'avoir quelqu'un qui est en nutrition, là, c'est un aspect tellement difficile à gérer. Même moi, j'ai encore de la difficulté. Donc, avoir de l'aide, là, comme toi, d'une professionnelle, là, ça vaut la peine.
C'est la clé, oui, définitivement. Mélodie, je ne sais pas si tu prends des nouveaux clients en physio, mais on a parlé de tous tes beaux services au cours de
Oui.
l'épisode. Si jamais on veut faire évaluer notre patron de course ou qu'on veut être accompagné ou coaché, bref, où est-ce qu'on te trouve?
Oui, ben moi en fait, je suis physiothérapeute à Bromont. C'est possible là, de prendre rendez-vous avec moi pour venir à Bromont directement. Les liens sont tous via mes réseaux sociaux, fait que je peux envoyer un petit courriel puis je vais vous répondre assez rapidement. Aussi en physio. Puis je l'ai faite avec plusieurs personnes de l'extérieur. J'arrive à faire des suivis à distance. Souvent, ça va être beaucoup des coureurs justement que je vais les aider à adapter. Tu sais, quand tu m'appelles, quand il y a une petite douleur, OK, je te donne tous les conseils, je te donne les exercices qui ont rapport à qu'est-ce que la douleur, ta blessure. C'est sûr qu'il n'y a pas de traitement manuel parce qu'on est à distance. Mais on a toute la gestion autour, tous les conseils, tous les exercices besoins. Puis j'ai eu quand même des bons résultats vraiment satisfaisants, là. Fait que même si vous êtes à l'extérieur, j'offre aussi un service là, à distance. Puis sinon, malheureusement, moi, en coaching avec Toutrelle, je suis complète présentement. Là, je déborde un peu, même là, j'ai beaucoup d'athlètes. Donc, mais j'ai des collègues Toutrelle qui leur restent à la place. Là, fait qu'on peut s'inscrire à la liste d'attente sur le site de Toutrelle directement pour un coaching. Ce qui est aussi une très bonne idée là, à ce temps d'une
Ouais.
année.
Super. Fait que
Ouais.
je pourrais mettre tous ces beaux liens dans les notes de l'épisode. Donc, si jamais les gens sont intéressés, pourront aller consulter tout ça.
Ben, merci beaucoup, c'est super gentil.
Merci à toi, Mélodie. Je suis super contente de notre deuxième discussion. Je le répète, si jamais vous voulez en apprendre un peu plus sur Mélodie, vous pouvez aller écouter l'épisode 28 pour compléter cet épisode-ci. Donc, merci à tous les auditeurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à la semaine prochaine. Un énorme merci pour ta présence sur le podcast aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir de voir que les épisodes t'aident à mieux assembler les morceaux de casse-tête sur la nutrition sportive. Je t'invite à me laisser un commentaire sur le podcast pour m'aider à le faire connaître. Il suffit de te rendre sur ta plateforme d'écoute préférée et de descendre jusqu'en bas dans la section « Commentaires et avis ». Tu cliques sur 5 étoiles et tu me laisses un commentaire. C'est aussi simple que ça et ça m'aide beaucoup. Merci encore d'être là et on se dit à la prochaine!